Donc bonjour à tous, voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce temps de culte, ce temps de louange, d'adoration, d'écoute de la parole de Dieu, de voir tous ces enfants aussi, c'est réjouissant. Donc je suis pasteur à Aix-en-Provence depuis 6-7 ans maintenant, et je vous apporte les salutations de cette église. Le conseil m'a demandé de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses. Donc là, l'église d'Aix-en-Provence, nous sommes deux pasteurs à travailler ensemble. La particularité d'Aix-en-Provence, c'est qu'il y a aussi un travail d'aumônerie qui est lié à cette communauté. Donc je suis aussi aumônier des prisons et aumônier des hôpitaux. Donc c'est bien d'être deux dans cette communauté pour travailler, parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire aussi. Donc voilà, je suis heureux de partager ce temps avec vous. Et je vous propose donc deux lectures ce matin. La première, qui est indiquée sur vos petites feuilles. Comme c'est l'hiver, on va raconter l'histoire d'une soupe. C'est pas encore le printemps. Alors, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, verset 38, il s'agit d'Élisée, prophète Élisée ici. Donc, 2 Rois 4, à partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal, alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets une grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage. Car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, et dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent : « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent pas manger. Élisée dit : « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit : « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. En texte complémentaire, et vous allez voir, assez différent. On ne voit pas forcément le lien tout de suite, mais j'espère qu'on va en trouver un. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui doit venir. Mais il y a eu une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à plus forte raison dans la vie, par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta volonté, afin que nous puissions non seulement l'entendre, que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse grandir et nous fortifier. Seigneur, tu nous connais, tu connais chacun, tu sais ce dont nous avons besoin. Alors viens toi-même, en personne, nous fortifier par ton esprit. Amen. Quoi de plus banal, finalement, que de partager une bonne soupe, que de partager un bon repas avec des amis? Quoi, on pourrait dire même de plus commun, quoi de plus habituel, que d'aller faire un petit tour au marché, peut-être ça vous arrive, et d'acheter les légumes nécessaires pour préparer une bonne soupe hivernale? Vous voyez donc, le thème du repas partagé, le thème du banquet, est un thème qui revient souvent, très souvent, tout au long des Écritures. Souvent d'ailleurs, pour nous faire plutôt un certain nombre de remarques, plutôt sur les invités, voyez-vous, sur l'attitude souvent des invités pendant le repas. On a en mémoire un bon nombre de paraboles sur l'attitude de ces personnes qui arrivent, qui cherchent les premières places, hein, ou sur leur tentative, d'autres paraboles, d'essayer d'éviter l'invitation ou le repas. Mais plus rarement, on trouve ce style de texte pour nous indiquer le contenu du repas, hein, ce qu'on va manger. On se souvient, il y a quelques exemples quand même, on se souvient par exemple du fameux plat de lentilles qui valut le droit d'aînesse à Ésaü, ou on se souvient encore par exemple des galettes, du veau bien tendre, du lait qu'Abraham et Sarah ont préparé à ces inconnus, à Mamré, qui sont venus lui annoncer la venue d'un fils miraculeux. Donc le repas, c'est vrai, c'est le symbole du partage, c'est le symbole de la communion, de l'hospitalité. Mais avant tout, avant même cela, ne l'oublions pas, le repas, de manière très basique, c'est un acte vital. C'est un acte vital, autrement dit, celui qui ne mange pas meurt. Hein, se nourrir, pour nous, c'est avant tout une nécessité. Et ce qui fait la force de ce texte aujourd'hui, de ce repas préparé, c'est qu'il se vit, vous l'avez noté, dans un contexte quand même assez particulier, c'est-à-dire dans un contexte de famine, le texte nous le précise. Du coup, ce repas prend un tout autre relief, et ce qu'il représente, de manière générale, on pourrait dire, c'est la vie. Le prophète Élisée intervient donc dans un contexte de manque, un peu comme Jésus, rappelez-vous, aux noces de Cana, qui intervient parce qu'il manque du vin pour la fête. Alors c'est vrai, le contexte est plus léger, est différent, certes. Mais ce qu'on remarque souvent à travers les Écritures, c'est que c'est à travers nos manques, nos propres manques, que Dieu agit souvent. Aujourd'hui, dans notre contexte, c'est vrai, européen, on peut le dire, français, la famine, c'est un mot que l'on ne connaît plus. Hein. Même si, ne soyons pas naïfs, certains autour de nous n'ont vraiment pas la vie facile. Mais globalement, par rapport au reste du monde, on peut dire que l'on vit dans un pays riche. Hein. Pourtant, ne nous voilons pas la face. Quant au manque, quant aux famines intérieures qui sont là et qui nous habitent. Vous le savez, peut-être, nous sommes en France les premiers consommateurs d'antidépresseurs. De quoi avons-nous faim ? De quoi avons-nous faim aujourd'hui ? Quelle nourriture pourrait enfin nous remplir, nous rassasier ? Malgré la richesse apparente, nous sommes aujourd'hui, je crois, d'une certaine manière, dans le même contexte que lorsqu'Élisée revient à Gilgal. Les hommes et les femmes qui nous entourent ont une telle soif, ont une telle faim, qu'ils sont prêts, quelquefois, et on le voit même dans ce texte, à ingurgiter n'importe quoi. Tout ce qu'ils trouvent, tant pis même si la date de fraîcheur des aliments est dépassée depuis longtemps. Voilà, on se remplit, on ne se nourrit pas, on se gave. Et on a toujours l'impression de ne pas être rassasié. Alors, il n'y a pas d'allusion au fast-food, hein, j'entendais certains qui en parlaient tout à l'heure. Bon, sans aucun doute, si Élisée avait été envoyé, je crois pour nous, réellement aujourd'hui, il aurait de la même manière préparé une bonne soupe, il aurait préparé un bon repas, bien nourrissant, pour combler, pour nous remplir de l'amour de Dieu. Mais entre Élisée et nous, entre l'époque d'Élisée et notre époque aujourd'hui, il y a eu un autre repas qui est venu nous combler, que nous voyons là et que nous évoquerons un peu plus tard. Revenons à notre texte. Rentrons un petit peu dans notre texte petit à petit. Première étape de notre texte, que j'appellerai le cuistot du dimanche. Cuistot du dimanche. Élisée demande donc à son serviteur de préparer le repas, le potage, la soupe. Et l'un des prophètes, nous dit-on, part dans les champs pour essayer d'agrémenter un petit peu ce repas maigre. Est-ce qu'on lui en a donné l'ordre? En tout cas, le texte ne nous dit pas. Est-ce qu'il a décidé de lui-même d'aller compléter ce repas? On ne le sait pas. Mais sans aucun doute, son initiative part d'un bon sentiment. Hein. Chercher de quoi nourrir la communauté. Voilà, c'est une bonne démarche. Et il découvre dans une vigne sauvage une mine de coloquinte sauvage. Coloquinte sauvage. Alors, d'autres traductions disent de concombre sauvage. Vous voyez un petit peu la forme du légume. Et il y en a tellement, nous dit le texte, qu'il en remplit son habit. Et il rentre certainement heureux, joyeux de tout ce qu'il a trouvé. Il les coupe en morceaux et les jette dans la marmite. Et le texte biblique rajoute, car on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Alors, une question. Comment est-ce qu'on peut préparer un repas avec un aliment qu'on ne connaît pas, ramassé dans les champs? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que, par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous prépareriez un repas à des invités que vous accueillez avec, par exemple, des champignons inconnus que vous avez trouvés, qui vous paraissent agréables au regard, qui ressemblent peut-être à des champignons que vous connaissez, vous voyez, orange avec des petits points sympathiques, etc. Est-ce que vous seriez vraiment prêt à prendre le risque? Prendre le risque. Les coloquintes ont un fruit amer toxique et contiennent en plus un purgatif très énergique. On espère donc ne jamais y goûter. Mais quelle folie quand même! Quelle folie! Quel manque de discernement ici! C'est totalement inconscient que de se nourrir d'un aliment inconnu, dont on ne connaît même pas les effets. Mais souvent, force est de reconnaître que c'est bien la nature humaine qui est décrite ici. Qu'est-ce que le monde qui nous entoure nous fait avaler comme poison? Comme poison. Que nous absorbons si souvent, sans sourciller du moins, dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'un poison? Le dictionnaire nous dit ceci, « Toute substance qui, introduite dans l'organisme vivant, peut soit le tuer, soit altérer ses fonctions vitales essentielles. » Soit ça peut vous tuer, ou altérer les fonctions vitales. Hein. Bon, donc il y a des poisons que vous connaissez, par exemple comme le curare, qui peuvent bloquer temporairement la plaque neuromusculaire et entraînent une paralysie généralisée et totale. Et ce sont les hommes, finalement, et on le remarque, avec leur manque de discernement, qui sont décrits ici. Au fond, on raconte mon histoire, on raconte notre histoire. Et ce que nous avalons quelquefois peut nous faire beaucoup de mal. Et quel manque de discernement ici? Quel manque de discernement? C'est-à-dire, quel est le problème? Au fond, quel est le problème? Posons le problème. On ne sait plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas. On ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Et c'est un grand danger avec lequel l'homme est capable. Vraiment, nous pouvons nous autodétruire, hein, nous rendre même extrêmement malades. Parce que on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Hein. L'homme ramasse ce qu'il trouve, il s'en fiche et il se nourrit. Pourquoi? Comme dans le texte. Parce qu'on est dans un temps de famine. Une famine. Et ce que nous ingurgitons peut vraiment, quelquefois, nous bloquer, nous empêcher de grandir, de progresser dans la foi. Rappelez-vous ce que demande le roi Salomon dans sa prière. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Alors, on pourrait faire notre prière ici, hein, pour gouverner ma vie, Seigneur, permets-moi de discerner le bon du mauvais. Hein. J'ai également pour cela besoin d'un cœur attentif à ta parole. Deuxième cri dans ce texte hein, que l'on entend, la mort est dans la marmite. Voilà ce que s'écrit les prophètes qui sont là. La mort est dans la marmite. Hein. Autrement dit, les carottes sont cuites, ou plutôt les coloquintes ici sont cuites. Les hommes de notre texte se rendent donc compte rapidement, dès qu'ils goûtent un petit peu quand même, il reste au fond un semblant de discernement, hein. Dès qu'ils goûtent, ils s'aperçoivent que la soupe est dangereuse, et ils s'écrient donc « la mort est dans la marmite ». Et c'est là la conséquence tragique du choix, faites attention, d'un homme. Un homme. Toute la marmite est contaminée. Il n'y a plus un centimètre cube de comestible. On ne peut plus se servir, voyez. Vous ne pouvez pas essayer d'aller manger un petit peu à droite de la marmite, à gauche, ou à la surface. Plus rien. Tout est mauvais. Tout est mauvais. La mort a envahi complètement toute la marmite. Le poison s'est répandu dans tout le plat. Et surtout, le paradoxe est là, ce plat qui devait donner les moyens de lutter normalement contre la famine, qui devrait fortifier les corps, qui devait fortifier les âmes, ce plat donne la mort. Et c'est vraiment ce qui est tordu, je dirais, dans cette histoire. C'est que la mort s'infiltre là où, logiquement, on devrait pouvoir trouver la vie. Hein, le projet, logiquement, d'une nourriture, le projet d'un repas, c'est de fortifier, c'est de fortifier notre corps, de nous donner l'énergie nécessaire pour avancer tout au long d'une journée. Ici, c'est un repas destructeur. C'est un repas de mort. Hein, la mort se trouve là où la vie devrait se trouver. Et s'il y a confusion entre cette histoire, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, l'homme ne sait plus, hein, c'est le manque de discernement. Mais il y a confusion également entre ce qui fortifie la vie et ce qui donne la mort. Et toutes les personnes présentes, toutes, hein, auprès de ce repas, auprès de cette soupe, sont toutes dans la même situation. Il n'y a pas d'exception, il n'y a plus personne qui peut se nourrir. La mort est là. On raconte cette histoire. Un jour, en Orient, des savants, des philosophes se réunissent pour répondre à une question qui se posait depuis longtemps. Existe-t-il, enfin c'est la question qu'ils essaient de se poser, existe-t-il deux catégories d'hommes ? Deux catégories d'hommes. Et la plupart étaient d'accord pour répondre par l'affirmatif, hein, mais l'opposition, le problème arrive lorsqu'il va s'agir de définir hein, ces deux catégories d'hommes. Alors il y a des grands débats qui s'organisent. Les uns disaient, c'est simple, il y a les fidèles d'un côté, les infidèles de l'autre. Ah, d'autres n'étaient pas d'accord, ils disaient non, mais pas du tout, il y a les sauvés d'un côté, il y a les damnés de l'autre. Hein. Bon, certains réfléchissaient et affirmaient, non, pas du tout, il y a dans la vie les dominants d'un côté, il y a les esclaves de l'autre. Hein. Les Grecs, d'ailleurs, qui étaient là, disaient, non, mais pas du tout, il y a les Grecs d'un côté et les barbares de l'autre. Alors certains disaient même, non, c'est pas vrai, il y a les Lyonnais d'un côté et les Stéphanois de l'autre. Alors ça, c'est pour le foot, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Non, c'est pas vrai, hein, je m'en... Alors, le débat continue d'une certaine manière, et certains disaient non. Finalement, il n'y a que deux catégories d'hommes. Il y a les vivants d'un côté, et les morts de l'autre. Alors, il y a la discussion qu'on continue, et puis on remarque qu'il y a un sage qui ne dit rien du tout, qui ne semble même pas intéressé par le débat, et on lui demande un petit peu ce qu'il en pense. Et puis il dit, effectivement, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il y a deux catégories de personnes, et de l'autre côté, les autres. Et finalement, par ces petites pirouettes, ils arrivent à terminer leur grand débat. Ce qui nous permet, nous, d'avancer ici une vérité biblique, c'est les autres, hein, c'est-à-dire, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes. Rappelez-vous l'histoire de ce repas. Tous se retrouvent devant cette soupe et personne ne peut la manger. Il n'y a qu'une seule
catégorie de personnes. Alors l'apôtre Paul dit les choses d'une autre manière. Il dit ceci, il n'y a pas de distinction, dit-il. Tous ont péché. Tous ont péché. Tous, de la même manière, sont privés de la gloire de Dieu. Les Juifs, les Grecs, sont tous les mêmes. Il n'y a pas d'injuste. Il n'y a pas même un seul. Hein. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, les paroles de l'apôtre sont quand même assez raides, je trouve. C'est dur, hein. Dur de réalisme. Lorsqu'il dit, il continue, tous sont égarés. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Leur gosier est un sépulcre de mort. Hein. La destruction et le malheur sont leur chemin. On est tous, certaines manières, inscrits à la même enseigne. Donc ce plat indigeste de la mort, on pourrait dire, est servi à tous, tous de la même manière. Et il faudra l'intervention de Dieu lui-même pour pouvoir changer le mal, ici, hein, ce repas de mort, hein, le mal en bien. Et c'est là maintenant la dernière partie. Élisée, rappelez-vous, le prophète de Dieu, jette de la farine, donc dans notre texte, dans la soupe, et on peut servir les gens qui sont là, et ils peuvent enfin se nourrir totalement. Miracle, vous voyez, la mort n'est plus dans la marmite. Et il est à noter que, sans l'intervention du prophète ici, le contenu du repas n'aurait absolument pas changé. Rien n'aurait changé, hein, repas de mort, tout à coup, devient un repas de vie, hein, par l'action puissante de Dieu, à travers même ce prophète. Vous avez remarqué que, dans cette histoire, et je l'ai déjà dit, par le choix d'un seul, hein, celui qui est allé ramasser les coloquintes, hein, par la décision d'un seul, le repas est devenu un repas de mort, pour tous, hein, et de la même manière, par le geste d'un seul aussi, c'est-à-dire le geste du prophète, qui vient jeter la farine dans le plat, tous peuvent à nouveau manger, s'ils le désirent. Alors c'est vrai qu'en lisant ce texte, vous faites peut-être le lien avec le texte de l'Épître aux Romains que nous avons lu, c'est difficile de ne pas se rappeler ici le choix d'Adam, hein, le choix de la désobéissance qui accepte de manger, de cueillir le fruit de l'amertume ici, avec toutes ses conséquences pour lui, et puis pour sa descendance aussi. Tout à l'heure, je disais au sujet de celui qui va ramasser les coloquintes qu'il fait preuve d'un grand manque de discernement. Adam, quant à lui, non seulement a eu un grand manque de discernement, mais aussi d'obéissance et de confiance, simplement de confiance en Dieu. La situation, je dirais, pour Adam, pourtant, il me semble, était peut-être plus simple, hein, que pour les prophètes dont on parle dans ce texte. Adam n'avait qu'une règle, une seule règle à respecter, qu'une loi. Vous voyez, après il y a eu les 10 commandements, mais jusque-là, il y avait une règle, une loi à observer, un fruit à éviter, c'est tout. Donc, bon, ne lui jetons pas la pierre, parce qu'on n'aurait certainement pas fait mieux. Avec ce fruit, hein, qui représente finalement le choix de l'homme, sa décision de s'éloigner volontairement de la parole de Dieu, c'est un repas indigeste, hein, que fait Adam, qui va peser sur l'estomac de l'humanité et qui pèse aussi sur le nôtre aujourd'hui, avec humainement, en tout cas, plus aucune possibilité de retour en arrière. La mort est dans la marmite. Si par la faute d'un seul, la mort a régné, nous dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains, par lui seul, à bien plus forte raison, par Jésus-Christ seul, ils recevront la grâce en abondance. Si par l'intermédiaire d'un seul la mort est entrée dans le monde, par l'intermédiaire d'un seul le Christ, la vie est de retour. Et le repas qu'il nous propose, c'est un repas vivifiant, parce qu'il en est le cœur de ce repas, hein, c'est le plat principal, c'est l'entrée, c'est le dessert, c'est le café, c'est tout ce que vous pouvez imaginer à la fois. Élisée donc jette la farine pour purifier le plat, et ce repas est enfin comestible. Jésus, quant à lui, s'offre comme une nourriture au monde, et ce repas de grâce que nous partageons, le pain, le vin, le pain signe de son corps brisé pour nous sur la croix, le vin signe de son sang versé pour nous. Ce repas est une vraie nourriture, parce qu'il est le signe de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, je pourrais dire qu'une chose, mais venez, venez partager ce repas. Venez vous rassasier enfin de son amour inconditionnel. Venez le partager avec ceux qui ont faim et soif de connaître Dieu. Acceptons enfin d'être remplis, d'être nourris totalement par lui. En conclusion, une question. Est-ce que vous avez faim ? C'est bientôt midi, mais est-ce que vous avez faim ? Et de quoi avez-vous faim ? Est-ce que vous avez confiance dans votre cuisinier ou cuisinière ? L'évangile de Matthieu nous dit ceci, et Jésus nous le rappelle. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Ou bien s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, étant mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Dieu est celui qui vient nourrir ses enfants, comme il l'a fait près de 40 années finalement dans le désert. Sa nourriture est vivifiante, fortifiante. Et ce n'est sans doute pas par hasard si, lorsque vous lisez ce texte du livre des rois, si vous continuez la lecture du texte que nous avons fait, ce texte qui suit, c'est précisément un texte qui raconte l'histoire d'une multiplication des pains, qui ressemble assez à celle qui nous est racontée dans les évangiles. En pleine famine, donc vous voyez, Dieu prend soin, il purifie la nourriture ici, il la rend comestible, et puis ensuite il la multiplie, il multiplie les pains pour que tous soient enfin totalement rassasiés. Ainsi, dans les temps difficiles, les temps de famine, même de famine intérieure, quelquefois que nous pouvons traverser, la grâce de Dieu abonde. Et plus encore, ce texte de la multiplication des pains termine en disant ceci, « Après avoir mangé le pain et multiplié, il y eut encore du reste. » Il y eut encore du reste. Alors, rassasie-nous, Seigneur, de ta grâce et de ton amour, aujourd'hui encore. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, tu connais nos besoins, nos désirs. Viens toi-même nous rassasier de ton amour et de ta grâce. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos peurs, nos angoisses. Viens nous remplir de ta paix, afin que nous puissions nous aussi aller la partager avec ceux qui te cherchent, avec ceux qui ont soif de te rencontrer. Oui, Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Alors viens toi-même nous rassasier. Amen.